Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous sommes en compagnie de Farage Benoît Kamura, venu nous présenter l'association Fraternité en Irak, une association qui est composée de jeunes professionnels et d'étudiants soucieux de la situation des minorités religieuses au Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Alors comme le dit l'énoncé de votre association Fraternité en Irak, vous êtes basé en Irak. Vous agissez auprès des minorités religieuses depuis 2009, j'ai l'impression.
Depuis 2011.
2011, voilà. Mais l'idée est née en 2009, dans cette période extrêmement sensible où beaucoup de réfugiés irakiens, me semble-t-il, avaient trouvé asile en Syrie à l'époque. On l'oublie un petit peu avant la partition et le chaos syrien, qu'elle a été elle-même une terre d'asile et d'accueil. Alors tout simplement pour présenter votre association en quelques mots, qui agit, qui est sur le terrain à plusieurs niveaux, au niveau professionnel, vous offrez du travail aux gens et surtout vous restaurez des monuments.
Oui, Fraternité en Irak, c'est un peu plus de 200 personnes qui sont déjà parties en Irak, qui sont des bénévoles et dont le but est vraiment de vivre cette fraternité avec les Irakiens, avec les chrétiens d'Irak, bien sûr, que nous connaissons évidemment bien depuis 2011, qu'ils soient chaldéens ou syriaques, mais aussi avec ces autres minorités que nous avons rencontrées grâce aux chrétiens et qui sont moins connues. Naturellement, depuis 2014, on connaît les yézidis, mais qui, aujourd'hui, connaît les kakaïs ou les mandéens, qui sont deux autres minorités, deux autres communautés très méconnues, et que Daesh et l'insécurité qui a grandi en Irak depuis 2003 ont beaucoup menacé et ont amené à prendre le chemin de l'exil.
Alors nous reviendrons plus précisément sur les actions même de votre association. On oublie peut-être un peu trop rapidement l'Irak par rapport au drame syrien actuel. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette partie nord de l'Irak, justement, où vivez en harmonie? Vous me parliez d'un village où vivent des chrétiens, des sunnites et une petite minorité,
les yézidis.
Les yézidis, voilà.
On parlait de cette ville de Barshika qui se trouve dans le nord de la plaine de Ninive. L'Irak, c'est un pays qui sort d'une guerre, une guerre contre Daesh. Après plusieurs décennies, en fait, de semi-guerre, puisque les Irakiens nous disent assez souvent que depuis la guerre Iran-Irak, ils n'ont connu que peu de répit. Entre l'embargo, les deux guerres du Golfe, c'est un pays qui a énormément souffert. Aujourd'hui, cette situation de guerre a créé des tensions et a détruit une partie du maillage de cette société irakienne. Le drame de cette dernière guerre contre Daesh, c'est qu'elle a fragilisé l'État irakien et donc aujourd'hui, dans cette plaine de Ninive, dans le nord de l'Irak, entre Kurdes et Arabes, entre yézidis et sunnites, entre chrétiens et sunnites, entre chiites et sunnites, eh bien oui, la guerre, Daesh en particulier, avec son idéologie, a construit des murs, des fossés, des barrières entre ces personnes, et tout l'enjeu pour l'Irak de demain, tout l'enjeu pour le gouvernement irakien qui sera nommé, puisqu'il y a eu des élections récemment, ça va être justement de faire en sorte que ce pays retrouve de la cohésion et que les Irakiens se sentent liés par une citoyenneté commune. Daesh est parvenu à mettre dans la tête des sunnites l'idée que chrétiens, yézidis, étaient tous des gens corrompus aux mœurs dévoyées. Et inversement, il a mis dans la tête des chrétiens et des yézidis l'idée que tous les sunnites étaient avec Daesh. Bien sûr, ces idées sont fausses, et très concrètement, dans les projets que porte Fraternité en Irak, l'enjeu c'est aussi que ces Irakiens se retrouvent.
se retrouvent pour vivre ensemble, pour apprendre à travailler ensemble, à partager les mêmes villages, les mêmes lieux.
Exactement, qu'ils apprennent à vivre à nouveau en paix, à échanger, à commercer, à se parler tout simplement et à dépasser ces fossés que Daesh a tenté de construire.
Alors pour nous mettre un petit peu à la place des Irakiens, on peut aussi remonter, vous avez parlé de la guerre Iran-Irak, on ne va pas refaire l'histoire de l'Irak bien entendu, mais n'oublions pas aussi la déstabilisation de l'État irakien en 2003 avec l'intervention américaine, et déjà l'exil de ces chrétiens qu'on a vu arriver, on voit les arriver en Jordanie, en Syrie, au Liban même, et à Istanbul pour ceux qui étaient plutôt dans le nord. Est-ce que vous rendez vous-même en Irak régulièrement, je crois 2 ou 3 fois par an?
Oui.
Est-ce que vous êtes témoin de retour depuis la chute de Mossoul, par exemple?
Oui, alors c'est une histoire étonnante et à laquelle je ne m'attendais pas. La dernière fois que j'étais à Karakoch, j'ai rencontré des chrétiens d'Irak qui s'étaient réfugiés en France et qui sont revenus à Karakoch. Il y en a une quinzaine de familles qui ont choisi, après avoir été accueillis en France durant cette période difficile, qui ont choisi de revenir chez elles. C'est quelque chose d'encourageant, je pense, pour tous les Irakiens, de voir que des personnes font le choix de revenir et de reconstruire leur vie, de reconstruire l'activité économique qu'ils pouvaient avoir. J'ai vu des gens qui avaient ouvert un restaurant, par exemple, à Karakoch. Naturellement, je pense que les personnes doivent être libres de choisir ce qu'elles font, mais c'est un beau signe.
C'est un point très intéressant, en effet. Ce sont des familles que vous aviez rencontrées en France ou que vous avez découvertes lors d'un séjour en Irak et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait eu ce passage
Alors,
par
en
notre
fait,
pays.
Oui, je me suis rendu compte sur place qu'ils avaient été en France. Je ne les avais pas rencontrés en particulier. Évidemment, on rencontre des réfugiés irakiens en France, mais ceux-là, non, on ne les connaissait pas avant.
Est-ce qu'ils ont évoqué avec vous les moyens qu'ils avaient utilisés pour venir et traverser l'Europe, une partie de ces routes d'émigration?
Alors, en l'occurrence, ce sont des personnes qui ont bénéficié d'un visa de la part de la France parce qu'ils étaient particulièrement vulnérables et menacés par Daesh. Donc ceux que j'ai rencontrés n'avaient pas pris les chemins clandestins pour venir en France.
Et est-ce que vous avez remarqué des populations installées dans les pays limitrophes, arabophones, je pense au Liban, à la Jordanie, hein, qui accueille beaucoup d'Irakiens de toute confession, est-ce que certains sont revenus en Irak?
Alors, pour ma part, j'ai pas rencontré de personnes qui sont rentrées de Turquie, du Liban ou de Jordanie. Je sais qu'un certain nombre d'entre eux se posent la question, peut-être qu'on ne me l'avait pas présenté, hein, comme j'étais français, on m'a présenté ceux qui revenaient de France, mais qu'on ne m'a peut-être pas parlé de ceux qui revenaient du Liban. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait, mais pour l'instant, je n'en ai pas encore rencontré.
Alors, vous êtes très soucieux de l'insertion, de la réinsertion professionnelle de ces familles, de ces chrétiens. Donc, vous agissez sur 3 villages, hein, je crois, la petite ville même de Karakoch, Bartala et Bachika. Voilà, donc on est dans les environs de Mossoul, à l'est, je crois, ce qu'on appelle la plaine de Ninive. Qu'est-ce que vous faites concrètement?
L'enjeu, c'est que ces réfugiés, quand ils rentrent chez eux, ils puissent eux-mêmes rebâtir leur ville et surtout avoir un travail pour pouvoir s'y projeter sur le long terme. L'enjeu, c'est qu'ils puissent retrouver leur outil de travail pour reprendre leur métier et retrouver aussi leur place dans la société. Ce que fait Fraternité en Irak, grâce aux dons de nos donateurs, c'est que pour 20% du montant de l'outil de travail, eh bien, c'est un don. On montre au boulanger qui veut reprendre son travail, à l'éleveur de poulets, que les 20% du montant, on est avec lui, on prend le risque avec lui, on lui donne. Mais 80%, c'est un prêt à taux zéro. Un prêt à taux zéro pour qu'il soit justement responsable, pour qu'il ait aussi la conviction que son travail va servir, à travers les remboursements, à aider d'autres personnes comme lui de la plaine de Ninive. C'est que lui-même, en travaillant et en remboursant, va aider au redémarrage économique de la plaine de Ninive. Cette idée de remboursement, elle est vraiment importante pour que les gens soient responsabilisés et qu'on ne soit pas dans une logique d'assistanat. Et en même temps, à travers ce travail, je pense à un de nos éleveurs de poulets. Ce monsieur qui élève les poulets par 2000, 4000, naturellement, en l'occurrence, prenons l'exemple d'un de ceux qui est chrétien, il ne va pas vendre ses poulets qu'à des chrétiens, il va en vendre aussi à des sunnites. Et vraiment, on a la conviction que pour faire la paix, il faut un peu s'inspirer de l'exemple franco-allemand. Il faut refaire du commerce. Il faut que ces personnes aient l'occasion et les moyens de commercer à nouveau avec leurs voisins. Et oui, il nous l'a dit, bien sûr, dans les poulets qu'il a vendus, il y a peut-être un sunnite qui avait brûlé sa maison. Mais en vendant son poulet, il y a eu déjà une reprise de contact, un premier échange, et c'est cela le premier pas en faveur de la réconciliation. De la même manière, parlons de Bartallah. Bartallah, c'est une ville où il y a une communauté qui s'appelle les Chabaks. Les Chabaks, c'est...
En quelques mots, expliquez-nous, oui.
Oui, les Chabaks, c'est une communauté qu'on assimile souvent au chiisme. En fait, ils pratiquent un chiisme qui est plutôt proche de l'alévisme. Et en fait, il y a un peu des tensions dans cette ville de Bartallah, parce qu'il y a des Chabaks et des chrétiens, et donc parfois, il y a des problèmes de voisinage. Eh bien, notre joie, c'est de voir que un coiffeur chrétien a embauché des employés Chabak, et de voir que, à travers ce programme de relance économique, on permet aux communautés de se reparler, de travailler à nouveau ensemble, et donc de recréer des liens. Notre conviction, c'est vraiment qu'à travers le travail, à travers ces échanges, on recrée des liens, on retisse ce lien social et cette stabilité, cette réconciliation pour l'Irak. Mais l'enjeu, c'est aussi de recréer des emplois concrètement. Et donc, depuis un an, notre grande joie et le travail qui a été mené, c'est que 57 petites entreprises ont été relancées. De l'éleveur de poulets à l'éleveur de moutons, en passant par le fabricant de parpaings, le fabricant d'éviers. Je pense, par exemple, à Rodi, quelqu'un que j'ai connu avant, qui s'est réinstallé. Lui, il était spécialisé dans les encadrements de fenêtres, les portes, parce que c'est quelque chose qui a été volé dans presque toute la plaine de Ninive. Et donc c'était un enjeu très important de refournir la plaine de Ninive en fabriquant de portes et fenêtres.
Alors ce matin, nous sommes dans Chrétien d'Orion avec Farage Benoît Camura, directeur général, sans me tromper, de l'association Fraternité en Irak. Alors vous évoquez des projets, voilà, de microfinancement pour des activités économiques. Vous travaillez en coordination avec l'œuvre d'Orion, il faut le préciser, une association que nous soutenons beaucoup dans l'émission. Et la question que je voulais vous poser, c'est qu'il y a un aspect aussi de votre investissement qui est très impressionnant, je dois le dire. Des images commencent à apparaître sur les réseaux sociaux. C'est après la fuite de Daesh de ces régions, de ces villages dont nous parlons, qui ont tous été occupés, y a eu des destructions monumentales de monuments. Et vous avez réussi à reconstituer l'un d'entre eux, qui est le mausolée de Mar Benham.
Oui, Mar Benham. Je vais raconter cette anecdote. Après la libération, l'archevêque syriaque catholique de Mossoul nous a dit « Écoutez, mes églises, c'est pas très important. Le plus important, c'est les maisons c'est les maisons. Mais il y a une exception, c'est Mar Benham. Mar Benham, c'est le lieu où est enterré un saint martyr chrétien du IVe siècle. C'est donc quelque chose qui relie les chrétiens de la plaine de Ninive avec les premières heures de leur histoire, qui prouvent qu'ils sont effectivement originaires de ce pays. Et c'est justement que Daesh a aussi voulu gommer. Mais Mar Benham, et c'est ce qui est encore plus intéressant, c'est un lieu qui relie les chrétiens aux autres communautés de la plaine de Ninive. Les musulmans, sunnites, les yézidis, ils viennent en pèlerinage.
Pourquoi ?
Parce qu'ils viennent y vénérer El-Rider. El-Rider, qui est un prophète cité dans le Coran, qui est en fait l'image de la jeunesse éternelle, comme ce saint martyr, ce jeune homme qui a été tué là et qui a eu la vie éternelle, Mar Benham. C'est un lieu tellement important que après sa libération, on parle avec le maire de la ville de Rider, ce mausolée se trouve dans une ville entièrement sunnite. Et le maire, on lui dit, est-ce que vous auriez des employés municipaux que l'on pourrait employer pour commencer à déblayer les gravats? Et il nous dit, Haza ala ahsabi, ça sera à mon compte. On est un peu surpris, on se dit, quand même, il faudra peut-être qu'on le paye. Et non, il a tenu parole. 8 hommes sunnites ont travaillé par 45 degrés pour déblayer 600 mètres cubes de gravats gratuitement. Ils ne voulaient pas qu'on les paye. Parce qu'ils étaient vraiment attachés à ce lieu. Parce que pour eux, c'était vraiment un lieu saint. Et d'ailleurs, les habitants du village nous ont expliqué que pour eux, si le mausolée n'avait pas été détruit, que si une partie des explosifs n'avait pas fonctionné, que pour eux, en tant que musulmans, ils pensaient que ça avait été un peu une forme de miracle. Donc ce lieu, il est vraiment enraciné dans la culture, dans la mémoire de toutes ces communautés de la plaine de Ninive, sunnites, yézidis, chrétiens.
Alors il faut dire qu'il y a des images qui ont été tournées à l'époque de la destruction et ça a été complètement dynamité. C'est un vous allez nous parler des matériaux que vous avez réutilisés notamment pour la reconstruction. Ce sont des matériaux assez fragiles quand même, donc ça a éclaté dans tous les sens et vous avez réussi à le reconstituer, ce qui est un second miracle peut-être, non ?
Oui, l'histoire c'est que Daesh donc avait en fait ce mausolée est enterré à 3 mètres et demi, 4 mètres sous terre, mais au-dessus du niveau du sol apparaît la coupole. Daesh avait miné la coupole, avait miné la base du mausolée et toutes les zones sculptées et les deux tunnels. Mais les seuls explosifs qui ont fonctionné sont ceux de la coupole et des tunnels. Et les gravats de la coupole en retombant ont protégé en quelque sorte le mausolée. Mausolée où on a effectivement retrouvé des reliques de Mar Bernam lors de la restauration. Et pour reconstruire ce tombeau, l'architecte français employé par Fraternité en Irak, qui avait une spécialité dans le domaine du patrimoine, a utilisé les mêmes matériaux que lors de la dernière construction qui date du XIIe siècle, à savoir des briques anciennes.
Et trouvées donc, sur place dans les
alors
villages.
Ces briques, il y en a un certain nombre qui ont été récupérées sur le lieu, mais surtout il a fallu récupérer dans la ville de Karakoche et dans les vieilles maisons en ruines de Karakoche 18 semi-remorques de briques et les emmener à Mar Bernam pour reconstruire Mar Bernam. Et puis utiliser de la chaux aérienne, ce qui n'était pas complètement évident à trouver en Irak, pour vraiment utiliser les mêmes matériaux que lors de la construction. Donc cette coupole a été reconstruite selon les plans qu'on a pu faire établir sur la base de photos prises au début du siècle.
De photos anciennes par Gertrude Bell, je crois.
Alors oui, Gertrude Bell, de croquis du Perfier, plusieurs. Il y a eu un peu un travail de recherche pour voir quelle était la forme de ce dôme avant sa construction. Tel qu'il était avant la destruction, qui date en fait des années 80-90.
Et les autorités religieuses locales de l'église chaldéenne ou syriaque orthodoxe,
syriaque catholique,
vous ont soutenu, vous ont accompagné dans ce projet ?
Oui, ils nous ont demandé de le faire, mais surtout ce projet, il a été fait en parfaite coordination avec le ministère du patrimoine et des biens culturels irakiens, et donc son représentant pour la région de Ninive, avec qui tous les plans ont été validés, toutes les étapes de travail ont été validées, puisque il faut savoir quand même que ces 600 mètres cubes de gravats ont fait l'objet d'une fouille archéologique extrêmement minutieuse, qui a permis de retrouver des morceaux de pierre d'un demi centimètre carré.
Et vous avez essayé de les resituer dans la
tout
nouvelle
à fait.
Construction.
En fait, on a eu recours en fait à une équipe de restaurateurs de pierre français qui sont venus travailler sur place. Puisque même si le mausolée n'a pas été détruit, certaines pierres, certains bas-reliefs ont été cassés par l'explosion. Donc il y a tout de même des pierres qu'il a fallu recoller et légèrement restaurer. Donc oui, il y a eu un travail de restauration qui a été fait. Et grâce au travail de fouille de ces 600 mètres cubes de gravats, certaines pierres ont pu être reconstituées. En fait, nous avons employé un archéologue irakien, très connu, qui a en particulier travaillé sur la ville antique de Hatra, et qui se trouvait...
Qui a été très abîmé aussi.
Oui, qui a aussi été abîmé par Daesh. Et donc c'est lui qui a supervisé une équipe de 6 archéologues qui ont travaillé pendant presque 2 mois à temps plein pour fouiller ces 600 mètres cubes.
Nous serons très heureux d'accueillir dans Chrétien d'Orient l'architecte dont vous nous parlez, quand il sera de passage à Paris. Je crois qu'il est très souvent installé dans le nord de l'Irak. Farage Benoît, est-ce que vous arrivez à être optimiste pour l'avenir de toutes ces minorités religieuses en Irak ?
Moi, je ne peux pas être pessimiste. Parce que quand je vois le courage, l'énergie, le ressort de ces réfugiés qui ont passé presque 4 ans, parfois 3 ans pour d'autres, dans des camps de déplacés, et qui ont l'énergie de rebâtir leur maison, de reconstruire et de reprendre leur travail, je dis, mais quand on a une telle force de vie, quand on voit une telle énergie, on ne peut pas être pessimiste. Ces personnes n'ont pas hésité, en fait, il y a 58 en petites entreprises qui ont été relancées par Fraternité en Irak depuis un an, qui ont recréé 167 emplois, c'est 167 familles qui en vivent, c'est 167 personnes qui se sont remis au travail, ils n'ont pas hésité une seconde, ils ne se sont pas lamentés sur leur sort, ils n'ont pas regardé derrière eux. Vraiment, oui, cette énergie, ce dynamisme fait que j'ai confiance dans le fait que les Irakiens veulent tourner la page de la guerre. Mon sentiment, c'est que le peuple irakien n'en peut plus de ces affrontements, n'en peut plus de ces divisions politiques, et qu'ils veulent la stabilité et la mise en place d'une forme de cohésion nationale autour d'une notion de citoyenneté, peut-être. Ils nous envient beaucoup, en fait, de ne pas être un pays communautarisé comme l'est l'Irak. Et ils nous le disent souvent. Voilà, cette énergie des Irakiens, pour moi, c'est vraiment le grand signe d'espoir qui fait que je crois qu'on peut dire que l'Irak a encore un avenir.
Dernière petite question, vous êtes dans la plaine de Ninive, est-ce que vous irez un jour à Mossoul pour travailler ?
Oui, en fait, Fraternité en Irak est souvent allée à Mossoul, en particulier avant 2014. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Et effectivement, dans la suite de Mar Bernam, nous avons été appelés pour deux sujets. Deux projets, l'un qui consiste en fait à déplacer l'église construite dans un camp de réfugiés par Fraternité en Irak et à la reconstruire à Mossoul pour qu'elle revienne avec les Mossouliotes à Mossoul. Et l'autre, c'est l'une des plus vieilles églises de Mossoul, l'église Al-Tahira, qui date du 9e siècle. Elle aussi, elle est un peu enterrée puisque le niveau de la ville de Mossoul est monté autour d'elle, donc elle est enterrée à 2 mètres sous le sol. Tout a été bombardé autour d'elle, mais heureusement, comme elle était enterrée, ses murs et ses sculptures sont peut-être encore intactes.
Ce matin avec Farage Benoît Kamura, directeur général de Fraternité en Irak. Merci.
Merci beaucoup Sébastien de Courtois.
Je remercie pour la réalisation de cette émission Dany Journeau, Claire Poinsignan et Marie Le Peintre. Bon dimanche.